Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Je dis, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos chroniques terriennes. Émission animée et réalisée par Eric Holz. Retrouvez-nous sur le 107.4 de Radio Pays d'Aurillac, ainsi que sur votre nouvelle chaîne YouTube Chroniques terriennes. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, c'est de pêche et de conte dont nous allons parler.
Sera cet ensemble où chacun sera déterminé dans son travail et ses
voisins. De pêche avec l'association agréée de pêche et de la protection du milieu aquatique du Cantal, ainsi que de conte, donc disais-je, avec l'IEO du Cantal, l'Institut d'études occitanes, qui nous présentait, juste avant les rapatonnades, son stage de conte. Un sujet vous passionne, vous souhaitez en parler à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 69 96. Laurent Descadis, bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui sur une manifestation que votre association a organisée. Pourriez-vous présenter votre association ?
Bonjour à tous, oui. Donc l'association, la PPMA du bassin d'Aurillac, voilà, regroupe l'ensemble des pêcheurs du secteur d'Aurillac qui vont de Mont-Salvi jusqu'à Yolé, tout simplement, en passant par Jussac, voilà. Donc qui rassemble à peu près 4000 adhérents à ce jour. Voilà.
Ah oui, quand même.
Oui, bon, on ne va pas se taper sur le ventre, mais c'est une belle association qui est l'une des plus fortes du département. Voilà.
D'accord. Alors, les tranches d'âge de l'association, vous connaissez un petit peu la pyramide des âges de l'association ?
Donc, on connaît très bien la pyramide des âges, puisque Bruno Denise a fait un travail énorme là-dessus. Donc, ça va de 2 ans à 98 ans, voilà, notre tranche d'âge. Donc elle est très large. Mais avant tout, voilà, on a une sensibilité vers des gens qui ont entre 40 et 60 ans. Mais on sent un rajeunissement très important. Alors, est-ce que c'est le travail de notre école de pêche ? Je le pense un petit peu, mais on sent un rajeunissement.
En tout cas, ça se voit autour du lac.
Voilà, on sent la jeunesse arriver et je dirais même, vous voyez, on a notre premier bénévole qui vient rentrer au conseil d'administration, qui s'appelle Pierre, qui va nous rejoindre, qui va rejoindre l'équipe. Donc, il a commencé par l'école de pêche et aujourd'hui, il va rejoindre l'équipe de bénévoles. Je tenais à saluer cette nouveauté.
Voilà. D'accord, bon, tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de voir l'école de pêche. Ouais. Alors, l'association, pour vous, ça représente quoi ?
Alors moi, je suis arrivé à la PMV du bassin d'Aurillac il y a 2 mandats. L'idée, c'est avant tout de défendre notre passion qui se doit de rassembler toutes les techniques de pêche. Ça va de la pêche de la truite, mais pas que. C'est aussi la pêche des poissons blancs, la pêche des carnassiers et aussi la pêche de la carpe. Donc, on se doit de fédérer l'ensemble de nos pratiques, mais pas que. Ça, c'est le côté passion, mais on a un côté de défense des milieux. Voilà. Au-delà de tout ça, nous devons nous préoccuper donc de nos milieux par la gestion de ces milieux. Alors, ça commence par l'aménagement de nos cours d'eau, mais aussi la défense de nos milieux. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a des périodes un petit peu difficiles, notamment par les aléas climatiques. Donc, le gros débat d'avenir, ça sera le débat de l'eau, pour lequel cette eau doit être partagée par l'ensemble de la population du Cantal et de France. Donc le grand débat sera celui-là, on le pense.
Ah bah, le débat de l'eau concerne tout le monde.
Voilà, ça concerne tout le monde, hein, parce que quand on ouvre le robinet, eh bien, le débat de l'eau, c'est l'affaire de tout le monde. Et nous y tenons plus que tous, puisque nous sommes vraiment liés à notre passion.
D'accord. Alors, 120 ans aujourd'hui, ça fait plaisir ?
Alors, 120 ans aujourd'hui, c'est... C'est un bel événement, je reconnais que j'ai même un peu d'émotion parce que c'est une première pour la PPMA d'Aurillac et je vous cache pas que regardez,
il y a du monde.
Il y a du monde et nous sommes même stupéfaits par la présence de nombre de pêcheurs et pas que. Donc voilà.
Là, c'est en train de se rejoindre un peu autour de l'apéro, j'ai l'impression.
Alors voilà, nous, on a prévu une petite collation pour les élus, pour nos amis et les anciens présidents. Donc voilà, je vais faire une petite intervention en deux mots, ouais, très rapide, et après on passera à l'apéro. Voilà.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un bon anniversaire.
Merci à vous.
Bruno Denise, bonjour et bienvenue sur l'antenne de RPA. Vous êtes secrétaire de l'association
agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques du bassin d'Aurillac. Voilà. Donc, on est heureux de vous accueillir ici à Aurillac à l'occasion de l'anniversaire des 120 ans de notre association. Donc on a cette occasion travaillé sur un peu l'historique de cette association. On a retrouvé dans les archives de la PPMA les statuts originaux de création de la première société. Ça ne s'appelait pas la PPMA à l'époque.
D'accord. Alors c'est ce qu'on a en face de nous là.
C'est ce qu'on a en face de nous. On a retrouvé donc les statuts originaux de la société des pêcheurs à la ligne de l'arrondissement d'Aurillac, qui a été la première association de pêcheurs du département, comme d'ailleurs la deuxième association loi 1901 créée dans le Cantal, puisque cette association s'est créée le 26 janvier 1902, donc 6 mois après la loi du 1er juillet 1901 qui permettait sa création. Alors, elle s'est créée à l'initiative d'un ingénieur des eaux et forêts qui était à l'époque l'administration responsable donc des rivières et de la pêche en France. Qui a donc rassemblé environ 150 pêcheurs du secteur d'Aurillac pour leur proposer de créer cette association. Elle s'est créée très rapidement, les statuts ont été validés en quelques semaines, avec un objectif premier qui était la lutte contre le braconnage. Il faut dire qu'à l'époque, déjà, il y avait des pollutions, il y avait des problèmes liés à la pêche, mais il y avait un gros problème de braconnage dans le département.
Les gens braconnaient pour se nourrir à l'époque, je suppose.
Alors, ils braconnaient pour se nourrir, mais aussi pour gagner de l'argent. La vente, le colportage et la vente des poissons étaient autorisés. Aujourd'hui, la loi interdit de vendre de poissons de pêcher de manière en rivière, autre que par des professionnels. À l'époque, c'était autorisé. Donc, il y avait un peu de braconnage pour s'alimenter, mais ce n'était pas le plus méchant. Le plus grave, c'était les gens qui empoisonnaient carrément les rivières. Hein. On utilisait à l'époque du chlorure de chaux, qui était un désinfectant relativement bon marché.
Pour tuer le poisson.
Voilà, on déversait ça dans la rivière, le poisson était asphyxié, et on récupérait le poisson un peu plus bas. Alors, ça tuait tout. Hein, les petits, les gros, bon.
Oui, pas de distinction.
Pas de distinction, non. Et les truites, par contre, les poissons qui sont très exigeantes en eau oxygénée, comme les truites, étaient les premières à en souffrir. Donc cette société a, dès le départ, mis en place tout un arsenal de lutte contre le braconnage, notamment en mettant en place des gardes qui étaient intéressés d'ailleurs pour prendre des braconniers avec des primes.
D'accord, ils avaient un intéressement par rapport au nombre de personnes qu'ils attrapaient.
Voilà, ils avaient un intéressement. La moitié des cotisations de l'association était réservée pour apporter des primes aux gardes ou aux gendarmes qui prenaient des braconniers.
En fait, le début des gardes de pêche.
Voilà, début des gardes de pêche. Alors on trouve dans les archives départementales, qui sont accessibles facilement par Internet.
Et c'est surtout par ce biais que vous avez trouvé beaucoup de documentation.
Ah oui, tout à fait. Ça a été vraiment une mine d'informations. Bon, les statuts originaux de l'association, on les a, nous, dans nos propres archives. Par contre, toutes les informations sur les actes de braconnage, on a retrouvé ça aux archives départementales. Alors ça a été, c'est une mine d'informations, et on aurait pu mettre 150 ou 200 articles de presse qui relataient des faits de braconnage dans le département.
Est-ce qu'il y avait aussi des procès-verbaux, ce genre
bien
de
sûr,
choses ?
Bien sûr, il y a des PV et on a des jugements de tribunaux. Bon, on a pu, par exemple, je dois être marqué quelque part sur les panneaux, on a des comptes rendus
d'audience. On peut s'approcher des panneaux. Hein.
On a des comptes rendus d'audience du tribunal. Par exemple, on nous dit qu'en juillet 1912, il y a eu 12 condamnations pour des braconnages, en octobre une vingtaine, et qu'à l'époque, c'était sévèrement réprimé puisque les gens étaient mis en prison. Hein. C'était pas seulement une amende. D'ailleurs, ils n'avaient pas les moyens de payer une amende, la plupart. Ils allaient en prison. Et d'ailleurs, il y a un article de presse qui nous dit qu'ils subissent la contrainte par corps. Bon, la contrainte par corps,
oui,
c'est la prison.
La mise en détention.
Mais préfèrent que ce soit en hiver. Parce que, justement, l'été, ils étaient occupés dans les champs. Et l'hiver, ils étaient chauffés dans les prisons. Ça allait mieux. Voilà.
Et nourris, finalement.
Mais voilà, on trouve dans les archives une infinité d'articles qui évoque ces faits de braconnage. Alors on a sélectionné certains, surtout sur le secteur d'Aurillac, hein, Arpajon-Aurillac, qui nous permettent d'avoir une illustration de tous ces faits de braconnage.
Bon, finalement, ces découvertes que vous avez faites pour la plupart, c'est ce qui motive notre présence ici aujourd'hui, puisque finalement vous vous êtes rendu compte que l'association avait 120 ans, c'est ça ?
Tout à fait. Ah oui, c'était le... Bon. En fait, lorsque la nouvelle équipe de l'association s'est mise en place suite au renouvellement du conseil d'administration à la fin 2021, bon, on avait envie de faire quelque chose, faire une manifestation, mais le fait qu'on ait découvert que l'association avait 120 ans, ça a été le prétexte pour dire, ben voilà, le thème de notre fête, ça va être l'anniversaire, les 120 ans de l'association.
On dirait un fanatique de la cause halieutique, avec sa belle canne et son moulinet. Mais s'il pêche, c'est pour rire, et l'on peut être certain que jamais sa poêle à frire vit le plus menu fretin. La pêche, à ce qu'on raconte, pour lui n'est en fin de compte qu'un prétexte, un alibi, on connaît pis. Un truc, un moyen plausible de fuir un peu son chez-soi, où sévit la plus nuisible des maritornes qui soit. Avec une joie maligne, il monte au bout de sa ligne tout un tas d'objets divers, des bouts de fer, des paillassons, des sandales, des vieilles chaussettes à clous, des noyers faisant scandale aussitôt qu'on les rend flous. Si déçu par une blonde, pensant faire un trou dans l'onde, tu tiens plus à te noyer qu'à te mouiller. Désespéré, fais en sorte d'aller piquer ton plongeon, de peur qu'il ne te ressorte à l'écart de son bouchon. Quand un goujon le taquine, qu'un gardon d'humeur coquine se laisse pour badiner, hameçonner, le bonhomme lui reproche sa conduite puérile, puis à sa queue il accroche un petit poisson d'avril. Mais s'il attrape une ondine, l'une de ses gourgandines, femme mi-chair, mi-poisson, le polisson, coup de théâtre dévore tout cru le bel animal, une cure de phosphore, ça peut pas faire de mal. Quand il mourra, quand la parque l'emmènera dans sa barque, en aval et en amont, truite, saumon, le crêpe à la queue sans doute, l'escorteront chagriné, laissant la rivière toute vide, désempoissonnée. L'or tombé dans la disette, repliant leurs épuisettes, tout penaud, tout pleurnicheur, les vrais pêcheurs rentreront chez eux bredouille, danser devant le buffet, se faisant traiter d'andouille par leurs compagnes.
Présentez-nous un peu les documents qui sont affichés ici. Donc on a vu les statuts, ici.
Alors,
on a des
statues,
articles.
On a quelques photographies ou cartes postales anciennes Donc toujours récupéré sur le site des archives qui nous montre, par exemple ici, une scène de rassemblement de pêcheurs devant l'église de la Roquebrue.
Oui, tout à fait.
Alors ça, c'est une photo qui date de 1929, qui est un peu plus récente, mais enfin qui est quand même significative. Et puis quelques photos...
90 ans tout de même.
Voilà, là c'est un peu... encore plus ancien, il y a une photo de ce qu'on appelle la Maison des Pêcheurs. Alors la Maison des Pêcheurs, elle existe toujours à Aurillac, hein. Elle se trouve en face l'arche et le parking qu'on appelle le parking Ladoux. Par contre, le bâtiment est complètement différent. Alors j'imagine qu'à l'époque, il y avait des pêcheurs qui habitaient ici. En tout cas, c'est une maison ancienne et en bord de rivière. On a des photos aussi de pêcheurs au bord de l'eau. Alors, par contre, on n'en a pas beaucoup, j'en ai pas retrouvé beaucoup, parce qu'il semblerait que les pêcheurs ne soient pas un thème qui soit très utilisé par les photographes à l'époque. Hein. Bon, je pense qu'ils devaient sélectionner autre chose. Des cartes postales, là on a une vue du gravier, hein, de la Jordanne et du gravier à Aurillac.
Tout à fait.
Donc une carte postale qui date de 1913. Voilà. Et puis on a tout un tas de reproductions d'articles de presse. Alors, soit des chroniques sur le braconnage, comme on parlait tout à l'heure, ou alors des communications de la société de pêche qui évoquaient les objectifs de la société et les moyens qu'elle comptait se donner.
Alors, quels étaient ses objectifs à l'époque ?
Alors, premier objectif, c'était lutter contre le braconnage, ça
oui.
C'était vraiment.
On en a parlé.
Voilà. Deuxième objectif qui est lié aussi au premier, c'est le développement de l'empoisonnement. Hein. On disait non à l'empoisonnement, mais oui à l'empoisonnement. C'est-à-dire que dès l'époque, on se préoccupait de favoriser la pisciculture et le déversement de poissons d'élevage dans les rivières.
La truite, par exemple ?
La truite, oui, essentiellement la truite, hein, puisque à l'époque, on a retrouvé quelques articles qui nous parlent d'élevage d'œufs de saumon hein, à Aurillac, qui auraient été déversés dans la Jordanne. Hein, il y a 8000 saumons du Rhin qui ont été déversés dans la Jordanne. Bon, je ne sais pas s'ils ont été pêchés, en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, avec le développement des barrages, il n'y a plus de saumon dans les rivières du département. Enfin, dans les rivières du département, sur la partie ouest, la partie Adour-Garonne, il y en a encore qui remontent sur l'Allier et sur la Lagnon.
Ah oui.
Ah oui, oui. La Lagnon, il y a encore quelques saumons qui remontent sur la Lagnon dans le département.
Et ils ne sont pas victimes des silures ?
Ah non, ils sont victimes essentiellement des barrages, hein, des obstacles qu'ils trouvent sur leur voie de migration. Mais il y en a quelques-uns qui arrivent encore à monter dans le département. C'est exceptionnel, mais régulièrement, tous les ans, les gardes nous font part de découvertes de saumon dans la Lagnon.
Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la biodiversité.
Oui, mais enfin bon, il y en a de moins en moins, hein, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, donc là, on a dans cette exposition également... Donc une histoire de la pisciculture dans le département hein, qui a commencé en 1858. Dès 1858, il y a eu les premiers élevages de poissons, donc éclosion d'œufs de truites dans le Cantal. Et puis progressivement, ça s'est développé pour se terminer avec la pisciculture de Thiézac, qui est une pisciculture qui a été créée par la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture à l'époque. Elle s'est créée en 1960 et elle a été fermée en 2005 pour des raisons d'insuffisance d'alimentation en eau des bassins, mais aussi d'évolution de la stratégie de la fédération qui préférait s'orienter vers une gestion patrimoniale, c'est-à-dire travailler sur le patrimoine local plutôt que de déverser des poissons extérieurs. Voilà. On a sur cette expo aussi une petite parenthèse sur quelque chose, une anecdote qu'on a découvert, c'est que Aurillac était jusqu'à la guerre à peu près un lieu important de fabrication des filets de pêche. Filets de pêche utilisés dans les cours d'eau mais également en mer.
Est-ce que c'est pas aussi un peu lié à la fabrication des parapluies ?
Je sais pas. En tout cas, ça s'est fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, on découvre que dès 1830, il y a un premier fabricant qui venait de la Lozère, qui est venu, c'est Monsieur Méjean, qui est venu s'établir à Aurillac. rue des Tanneurs. Alors l'essentiel de ces filets de pêche était, enfin de ces ateliers étaient sur la rue des Tanneurs, qui est aujourd'hui la rue Paul Doumer, à l'emplacement de l'ancien nouveau conseil départemental, l'hôtel du département. Donc on a ces filets. La fabrication de ces filets a occupé jusqu'à 200 ouvrières. En 1945, il en restait encore une centaine, et qui produisaient le tiers des filets français. Voilà. Alors on a quelques, à titre anecdotique, quelques reproductions de tarifs ou de factures des fabricants de filets locaux, et une magnifique photo du magasin et de l'atelier des filets de pêche Maurice Méjean, qui est rue des Tanneurs. Voilà.
D'accord. Voilà. Alors poursuivons.
Bon, on a quelques photos anciennes encore sur Aurillac, sur Arpajon. Et puis simplement rappeler que en 120 ans, il s'est passé beaucoup de choses.
Hein. Des événements marquants ?
Non, pas d'événements maintenant. Bon, on peut parler de la structuration quand même de l'organisation associative des pêcheurs. La société de pêche d'Aurillac s'est créée en 1902. Tout le département a été couvert par des sociétés de pêche en 1907. La dernière association, c'était à Saint-Flour. Elle s'est créée sur l'arrondissement de Saint-Flour en 1907. En 1942, il y a eu la création de la Fédération départementale des associations, hein, qui regroupe l'ensemble des associations et qui aujourd'hui tient une place importante dans le département. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Bon, la réglementation sur la pêche a fortement évolué. Le braconnage, a diminué. Mais pour autant, les menaces sur les cours d'eau ont évolué également.
Elles sont différentes.
Elles sont différentes, voilà. Bon, on parle de destruction de zones humides, de multiplication d'obstacles, du développement des espèces exotiques envahissantes, que ce soit des espèces animales ou des espèces végétales. Les pollutions, bien sûr, les pollutions chroniques. Voilà, aujourd'hui...
La chaleur ?
Alors la chaleur, c'est un autre point, la sécheresse, c'est un autre point qui nous inquiète beaucoup d'ailleurs, hein. Bon, qui n'est pas lié à des menaces, anthropiques, hein, ou des menaces, mais qui le réchauffement climatique, le réchauffement de l'eau et la sécheresse, bon, on l'a vu notamment cet été, nous font beaucoup interroger sur l'avenir des populations locales de truites notamment, hein. Puisque on a été obligé cet été de développer beaucoup de pêche de sauvetage, et on s'inquiète sur l'avenir justement de la truite dans le département, sachant que la truite est un poisson d'eau froide qui aime les eaux fortement oxygénées, et que plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène dedans. Voilà. Ceci dit, ce qu'on peut dire, c'est que même si les choses évoluent, même si elles ne vont pas dans le bon sens, il y a encore une volonté de la part des associations de pêcheurs d'agir au mieux des intérêts des pêcheurs, et aussi au mieux de la protection des milieux aquatiques. Voilà, là, on a quelques données supplémentaires dans cette expo sur la structuration justement des associations de pêche, hein, avec une carte des associations de pêche du département, et puis quelques données statistiques sur les adhérents de l'association d'Aurillac, hein, qui est la première association du département en termes d'effectifs.
D'accord. Alors, on a bien évoqué le passé. Aujourd'hui, quels sont les buts de l'association ?
Les buts de l'association, c'est de sauvegarder, je pense qu'aujourd'hui, c'est la sauvegarde du patrimoine et des milieux aquatiques qui est la priorité numéro un. Hein.
Donc préserver la ressource halieutique.
Préserver la ressource, préserver le milieu, hein, parce que les choses sont fortement liées. Défendre les intérêts des pêcheurs, hein, c'est aussi favoriser le développement du tourisme, du loisir pêche, et mettre en place des actions d'éducation en direction des jeunes. Alors éducation, initiation à la pêche, mais aussi éducation à l'environnement.
Comme aujourd'hui,
c'est ce qu'on développe de plus en plus. Hein.
On le verra au fur et à mesure des stands.
Vous verrez, il y a des ateliers pêche nature qui sont mis en place par l'ensemble des APPMA du département, et d'une manière assez importante sur Aurillac, en partenariat avec la Fédération des pêcheurs. Voilà. Donc le but, c'est maintenir une activité vivante, riche de son histoire et de son patrimoine, dans un département où la pêche et notamment l'eau tient une place encore très importante.
C'est à peine l'aurore et je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y'a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Moi je plante mon hameçon tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche. Et que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Je sors une truite d'au moins 120 kilos. J'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. Il est midi passé, je reviens les mains vides. Trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Je rentre chez moi, triste comme un menhir. Mais personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti, mais parti pour toujours. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie. Si je peux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche à la ligne.
Je m'appelle Jérôme Gonzalez, je suis garde-pêche bénévole à la PPM à Dauriac.
Là, aujourd'hui, responsable du simulateur.
Aujourd'hui, responsable du simulateur. Donc, j'ai droit aux gosses, j'ai droit aux parents, aux explications pour ramener un poisson.
Ça vient d'où, cet engin ?
C'est la Fédé qui le met à disposition.
Bon, alors ça marche bien, là, depuis ce matin ?
Oui, impeccable. Les gosses s'amusent comme des petits fous, moi aussi.
Ouais.
Donc, une bonne journée. Voilà.
Vous l'avez testé ?
Oui, je l'ai testé. Alors, tout à l'heure, je l'ai testé. Là, on est en niveau 1, bien sûr, pour que les enfants puissent s'amuser. Je l'ai testé en niveau 2, ça tire pas mal. Ça rend bien les sensations, quand même.
C'est crédible ?
Oui, ça, c'est crédible, oui.
Est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre à pêcher avec ça ?
Non.
Non. En revanche, on peut peut-être s'intéresser à la pêche.
On peut s'intéresser à la pêche. Après, ça permet, si on peut apprendre justement à ramener un poisson, puisqu'il faut, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux enfants, qu'il fallait faire une gestuelle.
Oui.
Voilà, il y a une gestuelle à apprendre pour ramener un poisson qui tire fort, surtout quand on est sur du gros poisson, style cendre, brochet, voire plus gros. Donc il y a quand même une gestuelle, donc on peut au moins apprendre la gestuelle.
Vous, pêcheur, bien évidemment, alors beaucoup sur le Cantal ou ailleurs ?
Beaucoup sur le Cantal, et moi je suis principalement pêcheur à la mouche, donc c'est vrai que je suis un peu puni aujourd'hui parce que je pêche sur le simulateur au leurre.
D'accord. Alors la mouche, vous les faites vous-même ?
Quelques-unes. Après, j'ai pas la capacité. Enfin, là, je me suis jamais.
Un apprentissage.
Autodidacte, on va dire.
Beaucoup de quoi ? D'internet, de conseils de copains ?
Non, beaucoup d'observations en regardant pêcher les autres pêcheurs à la mouche.
Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation au simulateur.
Je vous remercie, pareillement. Au revoir.
Au revoir. Thomas, présentez-vous.
Donc Thomas Delamède, moniteur guide de pêche depuis 6 ans sur le bassin d'Aurillac.
Inscrit à l'association depuis ?
Depuis mon plus jeune âge, depuis 6 ans j'ai ma carte de pêche, donc depuis mes 6 ans et j'en ai 32 aujourd'hui, j'ai toujours eu ma carte de pêche à la PPMA d'Aurillac.
Alors c'est ce que me disait le président, des très très jeunes bénévoles de 2 ans, il me disait, à 98 ans.
Ouais, c'est ça, c'est l'avantage de la pêche, c'est qu'on peut retrouver un petit peu toutes les classes d'âge, les tranches d'âge, et puis voilà, il faut que chacun y trouve son compte. On a des techniques qui sont faites pour les plus petits sans moulinet. On en a d'autres avec moulinet, donc voilà, c'est une belle réussite.
Alors, guide de pêche, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, guide de pêche, on a des missions d'éducation à l'environnement, sensibilisation au milieu aquatique, donc auprès des jeunes à l'école de pêche, notamment sur la PPM d'Aurillac, on a 3 groupes de 8 jeunes où on sort les mercredis après-midi, le samedi matin et le samedi après-midi. Donc voilà, on essaye d'assurer cette nouvelle génération de pêcheurs au maximum.
Alors, devant nous, nous avons une première activité, présentez-la nous.
Alors là, on est sur le pôle pêche au cou. Donc pêche au cou, c'est de la pêche sans moulinet, avec un petit bouchon où vous avez des enfants, voilà, qui n'ont pas trop l'habitude de pêcher, qui viennent s'initier, découvrir un petit peu l'activité et éventuellement, mais pourquoi pas derrière, prendre une carte de pêche et venir à l'école de pêche.
Alors beaucoup de jeunes ce matin ?
Beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. C'est une activité qui a un franc succès auprès du jeune public. Et voilà, c'est bien de voir des jeunes à la pêche.
Alors nous avons plusieurs activités là sur ce bassin ?
Oui, plusieurs activités. Donc comme je vous l'ai dit, de la pêche au cou sans moulinet.
On va se déplacer un petit peu.
Oui, bien sûr. On arrive sur le pôle pêche au cou avec moulinet. Donc là, vous avez des cannes anglaises. Canne anglaise avec des bouchons waggler qui nous permet de pêcher au cou à une dizaine de mètres devant nous. Donc voilà, on peut essayer de trouver des poissons un petit peu plus beaux. De la pêche au feeder qui nous permet aussi d'amorcer en même temps et de faire venir les poissons sur notre cou. Et voilà, ça s'adresse à des gens un petit peu plus aguerris qui ont déjà un petit peu
plus. Alors surtout pratique. Aujourd'hui, il y a un peu de vent quand même.
Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc bon, ça, là, c'est pas trop dérangeant, on l'a dans le dos. Ça aurait été plus dérangeant si on l'avait de face.
Oui, ça c'est sûr. Ça doit être très difficile pour le concours de lancer en face.
Oui, c'est un peu difficile, mais bon, regardez, on n'a pas la pluie, donc
oui, va, c'est déjà
on,
ça.
On s'adapte.
Alors ensuite.
Ensuite, alors voilà, on arrive un petit peu sur la pêche au cou. Voilà, là, regardez, vous avez déjà. Regardez, la nouvelle jeunesse qui est en
oui,
train de
oui,
pêcher,
mais effectivement, oui.
Impeccable. Et là, on arrive donc du coup sur le pôle pêche-carpe là-bas. Pêche-carpe, ça c'est le poisson le plus présent dans le lac.
Il est profond ?
Il est profond, non. Vous avez 1 mètre 50 de profondeur à peu près au milieu du lac.
Des herbiers ?
Quelques petits herbiers, des zones d'herbiers avec des blocs rocheux en plein milieu. Donc c'est pour ça que des fois on accroche un petit peu. La pêche est difficile.
Il y a de la casse ?
Il y a un petit peu de casse aussi, donc ça laisse un peu de chance aux poissons aussi. Mais bon, il n'y a pas de souci, on est toujours dans une.
Depuis ce matin, vous savez combien de personnes sont venues vous voir à peu près ?
Ah, depuis ce matin, on a bien drainé au moins une bonne centaine de personnes,
ah oui.
Jeunes et moins jeunes, à la pêche. Hein. Je pense que. Oui,
après,
oui,
le temps s'y prête.
Oui, le temps s'y prête, donc voilà, c'est toujours pareil. Nous, les activités de pleine nature, on est toujours tributaires du temps et c'est vrai que le temps s'y prête.
Alors présent jusqu'à.
Jusqu'à 18h.
Jusqu'à 18h, ah, oui, ça fait une bonne journée.
On n'arrête pas. Bah, écoutez, on est là pour le plaisir, donc nous, il n'y a pas de souci.
Oui. Alors, des prises ce matin ?
Des prises, on a fait des carpes. Bon, ils nous ont lâché quelques kilos de gardons. On a récupéré quelques gardons aussi. Carpes, gardons, et puis tout un croisement de nouveaux poissons qui sont nés dans le lac.
Ah oui, ouais. Quel type ?
Des poissons qui ne sont pas forcément référencés, je vous dis, des croisements entre des carpes et des tanches, carpes gardons, qui nous donnent des poissons qui sont un peu difformes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir.
Oui, j'ai vu dans ma vie des croisements aussi de poissons rouges et de tanches.
Ouais, bah, c'est sûr que ça fait des beaux poissons, et puis même pour le coup de ligne, c'est super à pêcher. Hein. Les jeunes sont contents de les trouver.
Alors, quelle est la qualité de l'eau de ce bassin ?
Alors, qualité de l'eau, elle est un peu mauvaise. C'est pour ça qu'on met pas de. Le poisson est impropre à la consommation. En fait, si vous voulez, ce bassin est destiné à la récupération des eaux de pluie. Du secteur de Belbex. Et forcément, l'eau n'est pas très très bonne. C'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre du gardon et des poissons blancs. On n'a pas mis de truite parce que le poisson serait impropre à la consommation.
Mais écoutez, je vous remercie pour cette présentation.
Merci.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Dites, monsieur le pêcheur, ça mord ?
Chut ! Vous faites sauver le poisson ?
Du poisson ? J'en ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein !
Chut ! La barbe !
Ah, mais je veux pas vous déranger. Pêchez.
Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis que flotte son bouchon, il sifflote une chanson.
C'est moi.
Il rigole derrière sa moustache.
Car je sais que dans ce coin, qu'on n'attrape jamais rien. Pom pom pom, même quand on est malin.
Alors monsieur, ça mord?
Ah non, ça ne va pas très fort.
Ah, il faut être patient. Ici le poisson n'est pas gourmand.
Je vais mettre un autre verre.
Moi, je m'en vais boire un verre. Ça donne chaud de vous regarder faire.
Installé sur un pliant, le pêcheur attend longtemps. Mais le poisson ne veut pas se laisser prendre. Le soleil est déjà haut.
Je crois que vous allez avoir chaud. Moi, je m'en vais. Salut et à bientôt.
Oh, quel raseur, quelle barbe!
Ah, ben dis donc, je suis sur mes terres, hein. Puis il faut pas m'embêter, hein.
Au loin passent des tas de péniches. Les filles lui crient. Oui!
Silence les filles, pêche!
Mais de tout cela, il se fiche. Il n'est pas là pour s'amuser.
C'est vrai, le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, voudrait bien ne pas rentrer bredouille. Il a beau être outillé, pas moyen d'en attraper.
Encore lui! Oh, quel casse-pied!
Tiens, vous êtes toujours là. Et alors, comment que ça va?
Oh, ça va mal. Il n'y a rien à faire aujourd'hui.
Ce poisson, moi, je le connais. Il ne fait que ce qui lui plaît. Attention, cette fois, je crois que ça y est.
Tout au bout de sa ligne, le pêcheur qui s'indigne, quoi qu'il vient d'attraper, devinez quoi?
Un vieux soulier. Oh, ça, c'est rigolo. C'est un des godillots que j'ai perdu l'année dernière dans l'eau.
Le pêcheur est dégoûté, il s'en va le nez baissé.
Oh, prenez-la, puisque c'est votre chaussure. Aïe, aïe, aïe.
Je vous remercie, mais tant qu'à faire, je voudrais l'autre pour faire la paire. Revenez demain, puisque c'est un bon coin. Pom pom pom, on taquinera le goujon.
Pom pom pom, on taquinera le goujon.
Alors, je m'appelle Ville-Pierre, je suis en terminale, et là je suis en deuxième année d'école de pêche.
D'accord, école de pêche, ça signifie quoi?
Alors, c'est y a les moniteurs qui nous apprennent donc à pêcher. Bah, on voit toutes les techniques possibles de la pêche dans notre région pour voir tous les différents types de pêche du coup et passer un peu surtout pour voir tous les poissons.
Qu'est-ce que tu préfères dans la pêche?
Moi, la pêche, c'est le calme et la patience. Voilà.
La minutie peut-être aussi un peu?
Minutie aussi, ouais, être patient, minutie, voir comme les nœuds et voir de jolis poissons aussi.
D'accord. Alors, tu as fait quel type de pêche jusqu'ici?
Alors, j'ai fait pêche à la mouche, pêche au feeder, au cou, et pêche au leurre, sur le bateau et du bord.
Voilà, on a un petit peu de vent, on va se tourner, si ouais. Tu veux bien. Donc, pêche au feeder.
Oui.
Explique un peu.
Alors, pêche au feeder, on a une canne au lancer un peu grande, 3 mètres, avec un baling pour la pêche au cou, au bouchon, et on a une cage pour mettre de la morse dedans et lancer loin et sur le fond. Et après, c'est plus des poissons, donc des beaux gardons et des brèmes qui vont venir.
Des prises ce matin?
Ah, pas mal de prises, oui. J'ai fait quelques carpes, gardons.
On voit que t'as le sourire.
Ah oui, ça fait plaisir. Parce que bon, cet état, on le pêche pas du tout. Et puis là, ça fait du bien de pêcher pour avoir d'autres espèces de poissons.
Tu vas continuer l'école de pêche?
Je vais continuer l'école de pêche et je vais devenir bénévole à partir de l'année prochaine.
Ah, ça c'est cool. Bénévole, quels vont être tes objectifs?
Alors, bénévole, c'est montrer aux plus jeunes que la pêche, c'est pas forcément d'attraper tout le temps du poisson, mais d'être patient, observer, beaucoup d'observations.
Découvrir la nature aussi.
Voilà, découvrir la nature. Et ça fait du bien aussi de se ressourcer auprès de, à côté de l'eau.
La pêche, c'est juste un hobby ou tu auras d'autres options dans ta vie vis-à-vis de la pêche?
Alors, c'est vraiment une passion avant tout, mais après, je pense que j'en ferai pas mon métier, mais ça peut tourner autour.
Oui, alors je m'appelle Jacques, j'habite Aurillac maintenant.
Et vous êtes un grand pêcheur?
J'étais.
Voilà, vous avez arrêté?
Ouais, j'ai un problème de...
De cœur?
Ouais. Ah. Donc je ne peux plus aller à la pêche.
Mais vous avez le cœur vers la pêche?
Ah, tout le temps.
Vous avez presque tout vendu, mais il vous reste quelques objets, les cannes en bois?
Il n'y a plus que ça.
Il n'y a plus que ça. Il y avait des leurres aussi?
Les leurres, je les ai déjà vendus il y a longtemps. Il y a un copain qui en voulait, donc il me les avait pris. Notamment des rapalas.
Et vous faisiez vos propres mouches?
Alors, moi je les achetais les mouches.
D'accord.
La pêche en Irlande, plusieurs fois. Et en Irlande, les mouches, elles sont données. Par contre, je pêchais à la mouche, mais la vraie mouche. Une mouche que je faisais avec des asticots. Et j'avais une vieille boîte à mouches tout à fait spéciale. Et il y a un gars qui me l'a prise ce matin. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui m'interviewait ce matin.
D'accord.
Donc ça doit être un de vos collègues.
Oui, peut-être, oui.
Donc il m'a pris ses... Mais alors c'était des boîtes formidables. C'était artisanal. Hein. Mm-hmm. On n'en trouvait pas dans le commerce, hein, des choses comme ça.
Alors, c'est peut-être indiscret, mais quel est votre âge?
Avec un 8.
Avec un 8, plus de 80. Et vous avez pêché à partir de quel âge?
6-7 ans.
6-7 ans, avec votre père, je suppose?
Oui.
Et je suppose que ça fait de beaux souvenirs.
Ah, monsieur, magnifique, magnifique.
Alors, c'est lui qui vous a offert votre première canne à pêche?
Ah, ben oui. Quand j'ai passé mon certificat d'études, parce qu'à l'époque...
On passait le certificat d'études.
On passait le certificat, on passait le brevet. J'ai une superbe canne à lancer avec un moulinet Mitchell et tout. Et là, bon, alors là, j'ai pêché plus un peu les carnassiers, vous voyez. Mm-hmm. La perche et des choses comme ça.
Et au début, c'était quoi, un morceau de bois et du fil?
Ah, ben, c'était des cannes comme ça.
Comme ça,
du
oui.
Roseau.
Du roseau, oui.
Pas le choix, il y avait que ça.
Et vous étiez fier de ramener du poisson à la maison?
Ah oui, ah ouais. Ah, vous savez, quand je ramenais des plats de truites ici, là, hein, quand je ramenais... Je ne devrais peut-être pas le dire à la fédération, parce que quand vous allez à la pêche, je vais vous donner un exemple, monsieur. Il y a 4-5 ans, je vais à la pêche sur l'Aubrac.
Oui.
Alors les tailles ne sont pas les mêmes en Lozère que dans le Cantal. Hein. Voilà. J'arrive le matin, au lever du jour, il fait froid, mais j'avais des vestes, dont une huilée, vous voyez. Ça, c'est bon. Ça. 8 heures du matin, une truite. Écoutez bien. Une truite. Bon, puis je ramassais, j'allais voir des copains qui étaient un peu plus bas sur la même rivière, qui mangeaient les tripous, vous voyez, des choses comme ça. Bon, je remontais à la pêche au même endroit que le matin, je mettais mon fil dans l'eau à midi. À midi 10, j'avais 8 truites. À 2h de l'après-midi, j'en avais 5 autres. Des truites comme ça, vous n'allez pas les rejeter.
Ah ben non. Et vous aimez ça?
Et si je pouvais y aller encore, j'irais encore.
Mais... D'accord. Et alors, c'était votre mère qui cuisinait, je suppose, à la maison?
C'est moi.
Vous?
Ah ben pas quand j'étais petit.
Oui.
Quand j'étais...
Alors, vous pouvez me donner une recette de truite?
La plus simple pour moi, la plus simple, c'est un bon morceau de beurre dans la poêle, recto verso. Mais, pour moi, c'est pas la truite la meilleure poisson d'eau douce, c'est la perche.
Ah ben, c'est subtil.
La perche.
Le filet, c'est très bon.
Voilà, c'est meilleur qu'une truite. Hein.
Un petit peu dur à découper à cause des arêtes?
Non, il n'y a pas d'arêtes hein, quand vous faites les filets.
Oui, quand on fait les filets. Non, mais je parle pour les préparer.
Ah oui, ça. Mais sinon, c'est le top.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous.
Merci beaucoup, puis bonne fin de journée.
Oui, merci.
C'est avec Jacques que se termine notre voyage au cœur de la pêche avec l'association AAPPMA, Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal. Nous poursuivons nos chroniques terriennes à l'Oustal d'Elteil pour un stage de compte juste avant les rapatonnades qui auront lieu à partir du 10 prochain. N'oubliez pas la soirée d'inauguration le 11 novembre. Christine Rouchet-Tible, bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous nous présenter ce qui se passe ce dimanche?
Alors, ce qui se passe ce dimanche ici à l'Oustal d'Elteil à Aurillac, c'est un stage de conte dans le cadre du Festival du conte l'Airapatounade, un stage qui est animé par Olivier de Robert. Voilà.
Voilà. Alors, vous en faites souvent des stages de ce genre?
Alors, on fait en général un stage en préalable du festival, c'est-à-dire une quinzaine, trois semaines avant le festival. On avait abandonné la formule, enfin l'organisation de stage, et puis on s'est rendu compte que ces dernières années, ben, ça fonctionnait pas si mal que ça. Donc, on en est très heureux et c'est pour ça qu'on l'organise.
Là, il y a du monde quand même.
Ah oui, on était très inscrits. Et enfin bon, on s'amuse bien quoi en fait.
Alors donc stage sur deux jours, c'est ça?
Oui, un stage sur deux jours, ce qui permet de prendre, d'écouter Olivier de Robert dans son accompagnement bienveillant, et puis aussi de se jeter dans l'arène et de compter devant les autres. Donc c'est très intéressant en fait, parce que on prend conscience de ce qui, de ce qui fait que peut-être ça pêche et aussi de ce qui est intéressant à conserver. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené au compte ?
Qu'est-ce que c'est qui m'a amené au compte ? Eh bien, moi, j'habitais à Aurillac, et je suis allée vivre dans un petit village à Tournemire, au-dessus même de Tournemire. Et dans ce village-là, qui était le village d'origine de la famille de mon mari, il y a une prégnance de la langue et une prégnance aussi de tout ce qui est d'ordre, je dirais, ethno. Et forcément, quand on s'intéresse aux gens qui vivent autour de nous, on s'intéresse au passé, à l'histoire d'une communauté, enfin, etc. Donc, je suis venue tout naturellement au compte et tout naturellement aussi à m'intéresser à la langue occitane. C'est, pour moi, les deux sont liés étroitement.
Un art de transmission pour vous ?
Ah oui, absolument, un art de transmission. Bien sûr, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quand on est comme ça dans un groupe ou quand on assiste au festival, comme on va le faire là dans les jours qui viennent, eh bien, lorsqu'on entend une histoire, on est parfois sensible à l'histoire ou voilà, ne laisse pas indifférent, mais parfois c'est au-delà de ça, quoi. Parfois, on a envie aussi soi-même de la raconter. Et c'est ainsi que les histoires vivent, de siècle en siècle et de territoire en territoire.
Fin de semaine prochaine, c'est les Rapatonnades qui commencent.
Oui, alors elle débute par des spectacles le jeudi 10 novembre, des spectacles pour enfants. Pour les crèches et les relais petite enfance d'Aurillac. Et puis en tout public, il y a à Saint-Illide une très belle racontée avec Adama Adepoujou, qui est appelé aussi taxi-compteur. Et donc on est ravis de le recevoir, taxi-compteur, parce que notre thématique de cette année, c'est Alfial Delay, ça veut dire au fil de l'eau. Et il est bien placé, taxi, pour raconter les histoires, la mythologie, enfin, etc., de l'Ouest africain, parce qu'il est en plus un militant actif pour tout ce qui concerne les problèmes d'eau en Afrique. Voilà.
Donc les Rapatonnades, le programme, vous pouvez rapidement nous le faire ?
Alors, il y a à peu près une trentaine de racontés, donc peut-être que je ne vais pas vous
non,
dire.
Non, pas les trois.
Voilà. Donc, sur le bassin d'Aurillac, donc voilà, il y a l'inauguration qui a lieu le vendredi 11 novembre.
Nous serons là.
Merci. Donc, avec plusieurs moments. Le 18h, c'est l'inauguration apéro-compte. Ensuite, à 19h15, à peu près, il y a un buffet. Il faut s'inscrire pour le buffet, qui est payant. Ensuite, il y a la racontée de Lucas Nedelec, qui sera à 20h30, 20h45, je ne me souviens plus exactement. Et ensuite, ce sera suivi d'un fest-noz avec un musicien breton. Donc on est ravis de pouvoir associer le conte à la musique. Il y a la participation pour cette soirée-là du CDMDT. Voilà.
D'accord.
Et... Alors, il n'y a pas que ça, hein, puisque au samedi, ensuite au théâtre, on accueille Pepito Matteo pour une leçon de français. Voilà. Et puis le dimanche, à la Loupiote, les conteurs amateurs sont invités à participer à un moment partagé, à une scène partagée. C'est le dimanche 13, je pense.
Continuons sur notre programme.
Alors, le mercredi, à la médiathèque de la Caba, il y a une racontée d'Olivier de Robert, justement, le conteur qui a animé le stage aujourd'hui, et qui aura lieu à 18h, enfin, dans ces eaux-là, 18h, 18h30 peut-être, mais je pense que c'est plutôt 18h.
D'accord.
Voilà, avec un spectacle d'ici. Et puis, il y a aussi un moment important pour nous, IO du Cantal, c'est la racontée tout en occitan, avec deux conteurs, Félix Daval et Christian Omeyer, qui aura lieu le jeudi 17 novembre à la salle qu'on appelait autrefois la cave et qui s'appelle maintenant Cap Cœur de Ville. Et je pense que cette racontée-là, j'en suis même certaine, a lieu à 18h15. Enfin, c'est écrit comme ça sur le programme, en tout cas.
Oui, bah, écoutez, de toute façon, les gens se référeront au programme.
Puis aussi, ils peuvent téléphoner à l'IO du Cantal pour savoir exactement quel est l'horaire.
Voilà. Alors, vous nous redonnez le numéro de téléphone ?
Le 06 22 60 86 30. Le 06 22 60 86 30. Sinon, pour avoir des renseignements par mail, c'est ieo.evenement@gmail.com. Voilà, et puis ensuite, je vous donne les premiers jours. Et puis ensuite, il faut... Voilà, il y a une excellente brochure qui est parue, donc que tout le monde s'y réfère.
Oui, tout à fait. De toute façon... Pour ceux qui écouteront les chroniques terriennes sur RPA et sur YouTube, il y aura le programme en lien.
Ah ben c'est parfait, merci.
Je m'appelle Olivier de Robert et je suis conteur, tout simplement.
Nous sommes un dimanche à Aurillac. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ?
Alors, je suis en train d'animer un stage de conte, voilà, à l'art du conte, d'initiation, de perfectionnement, enfin de rencontre parfois avec l'art du conte.
Il y a quand même du monde.
Oui, une petite douzaine, c'est ça. J'ai mes apôtres autour de moi. Là.
Oui, bon, vous avez la place centrale surtout.
Oui, du moins que je ne finis pas sur la croix, tout ira bien.
Pour vous, c'est venu comment le conte ?
Ah, c'est venu par hasard et par persévérance, parce que j'étais accompagnateur en montagne. Donc je racontais beaucoup d'histoires sur les chemins, le soir au refuge, voilà. Et peu à peu, je me suis mis à raconter des contes traditionnels que j'avais entendus quand j'étais môme. Et c'est devenu peu à peu une activité à part entière. Ça fait 30 ans que je fais ça, donc ça s'est fait lentement.
Oui, lentement. Et puis finalement, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas, puisque il n'y a pas d'âge pour faire ça.
Et non, au contraire, plus on est vieux, plus on est crédible. Il me tarde d'avoir une grande barbe blanche. Voilà, l'œil un peu lointain, aveugle comme Homer peut-être. Enfin voilà, c'est bien, j'ai encore quelques belles années devant moi, j'espère.
Oui, ben ça, je vous le souhaite en tout cas. Quel est le cadre idéal pour le conte ?
Ah, idéal, je dirais un endroit où on peut être correctement entendu, où il n'y a pas trop de bruit parasite. Cela étant, le conte est vivant absolument partout. Évidemment, on en a une image souvent de coin du feu, voilà, de douce pénombre, on en parlait tout à l'heure. Mais finalement, le conte est très vivant au zinc du café du coin, au café des sports, ou bien sur les bancs publics ou quelques vieux radotes. Voilà, le conte a sa place à peu près partout. C'est ça d'ailleurs qui en fait... Un des grands intérêts.
Partout, effectivement, sur tous les continents. C'est même souvent un art de transmission.
Oui, c'est l'art de transmission par essence et qui, effectivement, démontre son potentiel de transmission dans le sens où les contes que l'on raconte, les petites histoires que l'on raconte, ont déjà fait 20 fois le tour du monde. Elles sont présentes absolument partout, les mêmes histoires, revisitées par chaque continent, mais ce sont toujours les mêmes.
Le conte, histoire moralisatrice ou histoire de savoir ?
Les deux, mon général, et bien d'autres choses encore. Il y a des contes facétieux, il y a des mythes fondateurs, il y a des contes moralisateurs, il y a parfois le mélange de deux ou trois aspects, et il y a aussi ce que y met tout à la fois le conteur ou la conteuse et l'auditeur. Car chacun va chercher dans le conte ce qu'il a envie d'y trouver aussi.
Alors, est-ce que la blague de comptoir, finalement, n'est pas le plus petit des contes ?
Mais tout à fait. La blague de comptoir, si vous l'écoutez avec attention, parfois, va vous ramener à des vieux mythes fondateurs, à des vieux contes d'autrefois, généralement résumés, imbibés, transformés, mais encore vivants.
Où est-ce que l'on peut vous entendre habituellement ?
Ben justement, il n'y a pas d'habitude. On peut m'entendre là où je raconte. J'adore ce genre de la palissade. Mais par exemple, on pourra le faire pour les Rapatonades, c'est-à-dire le festival de contes qui se déroule...
Le 11 novembre, nous serons là.
Et alors vous, voilà, ça commence le 11 novembre et moi je viendrai conter le 17 ou le 16. Le 16 et le 18, voilà.
Eh bien voilà, les dates sont annoncées. Les Rapatonades à Aurillac, tout le monde sait où ça se trouve de toute façon.
C'est là que je commence, non ? C'est une histoire complètement abracadabrante. Non, l'air c'est bien entraînant, mais les mots c'est scandaleux. Hein, ça. Enfin, vous allez voir.
William Carpenter a 12 ans. Sois son père pour une bière. Il égorge à sa vieille maman juste pour le pied, pour rigoler.
Non, c'est pas bien marrant.
Il mit sa sœur sur le trottoir pour qu'elle prenne froid dans le brouillard. Et c'est pas tout, il raquettait ses grands-parents. Il en voulait à l'humanité.
C'est pas incroyable ça, vraiment. Alors. Qu'on me parle pas de justice, je vous arrête. Ouais, ben, je comprends pas pourquoi qu'il donnait des coups de raquette à son pépé. Parce que, je sais pas. Enfin.
William Carpenter a 20 ans. Tomba amoureux d'une blonde aux grands yeux. Elle était danseuse à plein temps, dans un truc bizarre, dans le genre Alcazar.
C'est champion, alors. Bien que c'est vrai qu'on mette de l'ambiance. T'as vu les salsifis, ça tricote là. Qu'est-ce que tu fais dimanche?
William Carpenter fut bien étonné de reconnaître son frangin, le petit adoué, le seul qui l'avait épargné, juste par amour et par pitié.
Ça peut se passer que dans des quartiers mal affamés, quoi, enfin. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je me dépêche et je vais attraper mon 85. Hein.
Bonjour, je m'appelle Céline et j'habite dans le Cantal depuis quelques années. Et je suis venue à ce stage parce que j'ai toujours été attirée par les contes. Et c'est la première fois que je me lance dans le conte, en fait.
D'accord. Et vous le referez ?
Je pense, oui, à l'occasion. C'est vraiment très enrichissant.
Qu'est-ce que vous allez faire de votre expérience d'aujourd'hui ? Est-ce que vous allez vous mettre à raconter des contes en famille, avec des amis ?
Mais je vais raconter des contes à ma famille, à ma fille, dans un premier temps. Et on verra ce qui en sort, mais je pense que je ne vais pas m'arrêter là.
D'accord. Souvent, on les lit, mais on peut aussi leur raconter.
Mais justement, là, ça va m'aider à les raconter bien, en fait.
Bien, d'accord.
Bien les raconter, oui. Et à y mettre de moi, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent, finalement. À rendre l'histoire vivante et pas juste lire une histoire comme on fait à ses enfants souvent.
Bonjour, je m'appelle Raphaëlle Matet et je suis guide conférencière actrice dans toute l'Auvergne. Et je suis ici en formation conte.
Oui, alors formation conte depuis hier ?
Depuis hier, tout à fait. Donc on est 12 participants, on vient d'horizons bien différents, donc c'est très intéressant.
C'est votre première formation en conte ?
Oui, tout à fait.
Vous en referez d'autres ?
Ah, je pense que oui, avec d'autres thématiques un peu partout en France. Là, avec les collègues de formation, on commence déjà à se partager les tuyaux.
Vous allez assister aux rapatonnades ?
Alors, je ne sais pas encore pour le moment, ça dépendra des visites guidées prévues pour moi.
Donc, actrice de formation un petit peu ?
Alors non, en fait, moi je suis guide conférencière, donc j'ai passé un diplôme universitaire et je me suis formée au théâtre pour pouvoir faire des visites guidées théâtralisées.
Plutôt musée, plutôt...
Plutôt tout, en fait. Et donc, on a une petite troupe qui s'appelle les Virées du Sancy. Et donc, on est 4 guides acteurs. Et on se balade dans toute l'Auvergne. On a chacun nos personnages qui ont leur caractère propre. Et on fait découvrir la région sous cette forme un petit peu différente.
D'accord. Et alors, sur Aurillac, qu'est-ce qu'il y a à visiter ?
Plein de choses à Aurillac. Et puis surtout, s'il y a des associations, offices de tourisme, comités des fêtes qui veulent faire appel à nous, on peut monter... des visites sur commande et aussi des veilladas où justement les contes rentreront bien sûr en scène.
Ben, nous transmettrons les coordonnées.
Avec plaisir, allez virer du Sancy.
Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous, à bientôt.
C'est ainsi que s'achève aujourd'hui nos chroniques terriennes. Je vous rappelle que si un sujet vous passionne, vous pouvez en parler à la radio. Contactez-moi au 07 69 25 96 69. Retrouvez également notre émission sur Chroniques Terriennes, la nouvelle chaîne YouTube. À très bientôt sur les Chroniques Terriennes et sur le 107.4 de Radio Pays d'Aurillac.
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ?
Mais dis, qu'est-ce que ça peut manger ?